de reconnaissance. Je vais prier pour votre continuation. Merci aussi, Rob, de m'avoir invité. C'est gentil. Alors, j'espère qu'il y a des choses que vous avez apprises que vous pouvez prendre avec vous pour vous aider dans votre marche avec le Seigneur. On va prier et ensuite on va regarder ce texte. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité à nous enseigner les bonnes choses pour nous aider à marcher avec toi. Encourage-nous ce matin. Aide-nous de saisir ce que tu veux nous dire. Et nous te remercions pour cette possibilité au nom de Jésus. Amen.
Amen.
En tout cas, merci pour votre attention. On a passé beaucoup de temps ici et vous étiez contents d'écouter. Je ne sais pas si Rob vous a payé pour garder les yeux ouverts. Alors, jusqu'à là, on a pris les personnages pour nous montrer un peu les dangers, etc. Mais aujourd'hui, ce matin, nous allons parler encore d'un personnage, mais de savoir que si vous avez toujours gardé ce qu'on a dit jusqu'à là, sans problème, sans désobéissance, sans difficulté à marcher avec le Seigneur, ben, vous pouvez partir déjà, parce que ce qu'on va dire ce matin, c'est pour ceux qui sont plus faibles, qui ont les questions. Parce que supposez que vous n'arrivez pas à bien utiliser les armes qu'on a vues jusqu'à aujourd'hui pour vous défendre contre les attaques de l'ennemi. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vivre selon la position que vous avez en Jésus-Christ, vainqueur, victorieux. Supposez qu'il y a le péché, que vous succombez, vous tombez au péché. Que faire?
Il y a le doute.
Des doutes?
Le doute.
Souvent, c'est une des premières choses semées dans la tête, le doute, les doutes. Mais nous avons la tendance à penser que Satan a fini avec nous. Après nous avoir séduits et nous fait tomber dans le péché, voilà, c'est bon. Son travail est fini. Il nous laisse souffrir tout seul les conséquences de nos actes. Sauf que ce n'est pas vrai. Il n'a pas encore fini. Il reste une dernière étape pour notre ennemi. Il va essayer de mettre le chrétien désobéissant si bas, avec une charge tellement lourde, que la personne n'arrive pas à revenir. Il reste vaincu, esclave au péché, et inutile entre les mains du Seigneur. C'est son but. C'est ce qu'il veut faire avec nous. Et voici comment il fait. On va lire un texte un peu spécial, peut-être vous avez déjà lu, mais peut-être pas tout compris. Et je ne sais pas si on va tout comprendre ce matin, mais c'est un peu spécial dans le prophétie de Zacharie, au chapitre 3. Nous avons, dans ces premiers chapitres de Zacharie, plusieurs visions que Zacharie a eues. Et on arrive au chapitre 3, où ça parle de ce grand prêtre, Josué. Et puis il me fit voir Josué, le grand prêtre, qui se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. Et l'accusateur, regardez, il est là, Satan, l'accusateur se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à l'accusateur, que l'Éternel te réduise au silence, accusateur. Oui, que l'Éternel te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem, celui qui n'est pas un tison arraché, celui-ci n'est-il pas un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert d'habits très sales et se tenait devant l'ange. L'ange s'adressa à ceux qui se tenaient devant lui et leur ordonna, ôtez-lui ses vêtements sales. Et il ajouta à l'adresse de Josué, « Regarde, j'ai enlevé le poids de la faute que tu portais et l'on te revêtira d'habits de fête. Alors je m'écrierai qu'on lui mette un turban pur sur sa tête. On lui posa donc le turban pur sur la tête et on le revêtit d'autres habits. Or, l'ange de l'Éternel se tenait là. L'ange de l'Éternel fit ensuite cette déclaration à Josué. Voici ce que dit le Seigneur des armées célestes. Si tu suis les chemins que j'ai prescrits, si tu obéis à mes commandements, si tu exerces dans mon temple les fonctions judiciaires, tu veilleras sur mes parvis, je te donnerai des guides pris parmi ceux qui se tiennent ici. Et maintenant écoute Josué, toi le grand prêtre, et tes collègues qui se tiennent devant moi, car vous êtes des hommes qui servez de préfiguration. En effet, je ferai venir mon serviteur qui est appelé le germe. Voici que je pose une pierre devant Josué. Sur cette pierre unique, il y a sept yeux. J'y graverai moi-même son inscription, le Seigneur des armées célestes le déclare. Et en un seul jour, j'ôterai le poids de la faute que porte ce pays. En ce jour-là, le Seigneur des armées célestes le déclare. Vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Pas mal de langage un peu figuratif, une vision spéciale. Mais quel est le cible? Le titre que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'accusateur. Ça, c'est Satan même, c'est le texte, c'est le mot utilisé, accusateur. Et le cible, c'est le cœur. Le cœur et la conscience. Cette scène, cette vision, se passe au ciel où la personne désobéissante passe en jugement. Alors, il faut bien voir l'image ici parce que Dieu est le juge. Josué, le souverain sacrificateur, est l'accusé. Et voici Satan qui vient comme l'avocat général pour essayer de prouver que Josué est coupable, qu'il mérite la punition maximum. Et ce texte donne l'impression au début que Satan va gagner. Pourquoi? Parce que Josué est habillé avec les vêtements sales. Le souverain sacrificateur devait porter les vêtements purs, propres. Souvenez-vous que Zacharie a eu cette vision à un moment dans l'histoire d'Israël, quand ils étaient au plus bas. Ils ont péché contre Dieu, ils ont quitté la bonne voie. Et pourquoi Josué porte les vêtements sales? Parce qu'il représente le peuple désobéissant devant Dieu. Dieu qui est saint. Le peuple, ils ont péché. Ils sont coupables. Rien à dire. Satan connaît leur état. Il connaît le péché, il demande justice, que ce peuple soit jugé et condamné par un Dieu saint. J'essaie d'imaginer un peu les arguments de l'accusateur, de l'ennemi Satan. Dieu, monsieur le juge, regardez ce peuple, mais ils sont rebelles, ils sont désobéissants, ils ne vous suivent plus. Vous êtes un Dieu saint. Et vous appelez ce peuple à être un peuple saint qui adore pas d'autre Dieu que toi. Si vous êtes vraiment saint, Seigneur, si vous êtes vraiment Dieu, vous êtes obligé de juger ce peuple. Regardez. Ils sont coupables. Il faut les punir. Il faut les détruire. Satan dit, vous devez donner Dieu à ce peuple ce qu'il mérite. Le pire. Et c'est en même temps de penser à Josué, le souverain sacrificateur, qui écoute. Il est là au banc de l'accusé. Ses accusations sont lourdes. Son cœur est lourd avec ses accusations. Il est brisé. Sa conscience crie contre lui. Il est sans défense parce qu'il sait que c'est vrai. Ça vous arrive? Vous voyez chaque fois que nous sommes désobéissants. On demande autre chose. Satan est là. L'ennemi cherche à nous faire pousser plus bas, à nous finir même. Il nous attaque dans le cœur et dans notre conscience. Tu oses dire que tu es chrétien? Pas possible. Regarde ce que tu fais. Regarde comme tu es. Maintenant, tu es mauvais. Tu assistes à l'église comme tu es? Ah non, pas possible. Tu oses prier Dieu avec ta vie sale? Quel hypocrite. Ah, si tes amis chrétiens te voyaient comme tu es, ils te jetteraient dehors de l'église. Tu connais peut-être ces sentiments, non? Moi, je connais.
Tu es pasteur et tu penses comme ça. Tu parles de cette manière aux autres. Pas possible. Attention, Satan n'a aucune miséricorde avec ses attaques. Oh oui, avant le péché, il dit, vas-y, tu verras, c'est bien. Tu peux le faire même sans conséquence. Il ne faut pas écouter les autres. Sans problème. Tu verras, c'est super. Sois un homme, sois une femme.
Et tout de suite, après le chute,
Ça y est, tu ne vaux rien. Tu ne peux plus revenir. Ta vie est gâchée. Tu vas comme tu es.
Des attaques, des accusations. Vous connaissez peut-être ces sentiments. Je pense qu'on connaît tous. C'est assez pour nous faire désespérer, n'est-ce pas? Et de dire, moi j'ai plus ma place. Il vaut mieux que je reste à la maison. Mais quelle est son arme? On a dit, c'est l'accusation. Quand Satan nous parle de Dieu, il ment. Il ment. Il ne dit pas la vérité sur Dieu. Mais quand Satan parle de nous, souvent il dit la vérité. Apocalypse 12, verset 10, nous dit que Satan accuse les frères jour et nuit devant Dieu. Oh là là, jour et nuit, il nous accuse devant Dieu. Satan crie, vous avez vu votre serviteur Abraham? Il a menti concernant sa femme. Vous avez vu votre roi David? Il a pris la femme d'un autre. Vous avez vu ce disciple Pierre? Il a renié ton fils trois fois. Jugez-les, ils sont coupables. Et il a raison. Quelle est la clé pour nous? Nous devons apprendre à discerner entre les accusations de Satan pour nous faire détruire et la conviction du Saint-Esprit dans notre cœur pour nous ramener à Dieu. Pas facile. Parce qu'un sentiment de culpabilité et honte peut être une bonne chose si c'est le Saint-Esprit qui nous attire vers Dieu pour être pardonné et remis sur la bonne route. Mais Satan veut nous donner les regrets beaucoup plus profonds. Le désespoir, la déprime, jusqu'à la dépression, pour qu'on soit dans la défaite et on reste dans la défaite. Il y a un verset en 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 10, il dit « La tristesse selon Dieu produit quoi ? La repentance. Tandis que la tristesse du monde produit la mort, et le désir de la mort. » Alors, quelle est notre défense? C'est le Fils de Dieu qui intercède pour nous. C'est vrai que Satan est là pour nous accuser, mais c'est vrai aussi que Jésus-Christ est à la droite de Dieu pour intercéder pour nous. 1 Jean, chapitre 2, verset 1. « Petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. C'est beau ça. Il y a deux aspects du ministère de Jésus comme souverain sacrificateur. La première, c'est qu'il intercède pour nous, tout simplement. Auprès du Père, il intercède pour la grâce dont nous aurons besoin quand nous sommes tentés. Et si par la foi, on met vraiment notre... nous nous tournons vers Christ, on met notre confiance en lui, il nous aidera à passer par la tentation et il nous donnera la victoire. C'est ce que Jésus fait pour nous. Il intercède pour nous. Mais aussi, si nous succombons, nous tombons au péché, c'est là où il travaille comme notre avocat pour nous faire pardonner, pour nous faire réconcilier avec Dieu. 1 Jean 1,9, on connaît par cœur, n'est-ce pas? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est un de mes versets préférés de la Bible. Pensez encore à cette image du jugement. Dieu est le juge sur le trône. Josué, le souverain sacrificateur, est sur le banc d'accusés, habillé avec les vêtements sales. Satan se tient à sa droite comme l'avocat général pour plaider les accusations, pour crier « coupable, coupable, coupable ». Et Jésus-Christ se tient à la droite de Dieu pour représenter Josué comme son avocat de défense. Dieu est le juge parfait. Il est saint, il est juste, fidèle. Il ne peut pas accepter le péché, mais il est prêt à nous pardonner. Mais comment peut-il nous pardonner parce que le verdict est sûr et c'est vrai? Est-ce que ça veut dire qu'il ferme les yeux sur nos péchés? Est-ce qu'il ferme les yeux sur les péchés de Josué et le peuple d'Israël? Il ne peut pas, il ne peut pas. Dieu n'acceptera jamais les péchés de ses enfants. Mais il veut accepter ses enfants. Alors quel dilemme, vous voyez? La clé, c'est le sacrifice de son fils, Jésus, à la croix. Ce qu'on a chanté tout à l'heure. Merci, Vicky. Dieu ne rejettera personne qui vient par la foi lavé par le sang de son fils. Jamais. C'est clair, la Bible nous parle souvent de ça. Et voici les étapes alors dans l'expérience de Josué. Première étape, c'est l'accusation de l'ennemi. Il raconte tous les péchés de Josué et le peuple d'Israël et il demande justice, il demande la condamnation. Il a raison. Deuxième étape, c'est la réprimande de Dieu à l'ennemi. Verset 2 du chapitre 3. Dieu réprimande Satan et c'est basé sur sa grâce envers son peuple. Dieu nous a choisis, nous sommes arrachés du feu et c'est totalement par la grâce, payé par le sang de Jésus. La troisième étape, c'est la réconciliation de Josué. Et j'aime cette image. Dieu ordonne qu'ils enlèvent les vêtements sales pour revêtir Josué avec les vêtements purs. Satan nous accusera constamment. Mais je vous dis ce matin, ne l'écoutez pas. Par la foi, tournez vos regards vers Dieu, ou par sa grâce, il est là pour nous recevoir. Il faut confesser les péchés. Il faut demander à Jésus, notre avocat, de plaider notre cas basé sur son sacrifice. Il a payé le prix. Et puis accepter la parole de Dieu qui dit au sujet de vos péchés et ce qu'il dit au sujet de vos péchés et sa promesse de nous pardonner. Et à ce moment-là, il ne faut pas succomber aux sentiments du cœur. Il faut demeurer ensuite dans la grâce de Dieu. Dieu nous a choisis et il ne nous abandonnera jamais. Mais n'oubliez pas que le péché non confessé dans notre vie, dans notre cœur, est une ouverture pour Satan pour nous accuser et pour nous détruire. Et le plus qu'on attend avant de se repentir, le plus qu'il nous accuse. Le plus qu'il nous accuse, le plus que nous aurons le sentiment de culpabilité. Et le plus que nous sommes accablés par la culpabilité, le plus qu'on a du mal à voir Dieu et sa bonté, son pardon. Parce qu'à ce moment-là, Dieu est caché derrière les nuages de nos péchés. Et il est impossible de voir sa grâce, son amour et sa miséricorde. Le résultat est que nous ne sommes pas ramenés à Dieu, mais nous sommes éloignés de Dieu. La culpabilité est une arme puissante entre les mains de Satan. Il aime bien nous garder au plus bas. Quand nous sommes désespérés, Satan nous dit « Maudit Dieu et meurt. » Mais n'écoutez pas sa voix. Écoutez l'autre voix, la voix de Dieu par son esprit et cherchez Dieu par la foi. Par la repentance. Soyez consolés de savoir que votre avocat, Dieu, plaiderait votre cas auprès du Père pour vous faire pardonner, pour vous faire purifier. Nous avons cette possibilité de connaître le Seigneur, de vivre pour lui, sachant que on fait tous les efforts possibles avec l'aide de Dieu pour ne pas tomber. Mais quand on tombe, un avocat qui veut nous remettre sur les rails pour servir Dieu. Il ne faut pas rester dans la défaite, vaincu et laisser aller plus loin. Alors, aujourd'hui, on va essayer de répondre à quelques questions à la fin et après, on va ouvrir. Peut-être vous avez des questions à ce sujet. Je crois que c'est quelque chose qui est souvent oublié par l'enseignement dans l'Église. On parle beaucoup de comment vivre pour le Seigneur, mais moi je sais comme je suis et on sait qu'on est fait de la même pâte. Et donc on a souvent des choses où l'ennemi nous attaque en sachant qu'on a fait fausse route, on a fait quelque chose qui ne parlait pas, on a peut-être dit quelque chose qui ne parlait pas, on a peut-être pensé quelque chose qui ne parlait pas. Et l'ennemi, il sait utiliser ces choses pour nous accuser. Mais comme Josué le souverain sacrificateur, Dieu dit, enlève ses vêtements sales et remet les vêtements purs. Et par la repentance, il nous redonne la possibilité de continuer à vivre pour lui. Alors regardez les questions sur l'accusateur. Comment Satan nous attaque dans notre conscience ? Voilà, c'est là où il attaque. Et je pense qu'on est tous pareils là. Tout de suite, on reconnaît, c'est vrai, je suis stupide, j'ai mal fait. Donc, je parle avec beaucoup de personnes qui se sentent vraiment... Il y a une fille qui nous a écrit, même ce matin, pour dire... Elle a fait quelque chose, c'était pas si grave que ça, mais elle a parlé d'une manière qui n'était pas bonne. Et la personne, elle a demandé pardon, la personne dit qu'elle veut pardonner, mais il faut bien appuyer sur ce que tu as dit et la manière que tu as fait. Et elles se sont écrasées, parce qu'elle demandait pardon à Dieu, elle demandait pardon à la personne, et la personne, malheureusement, une bonne chrétienne aussi, mais elle répond, je te pardonne, parce que tu as fait comme ceci, tu as fait ça, et ça remet un peu le point sur les choses. Et elle est triste. Elle est vraiment découragée. Ça nous arrive, hein? Pourquoi Satan veut nous accuser? Il veut vraiment nous condamner. On est inutile entre les mains du Seigneur si nous regardons tout le temps l'état de notre cœur, comme nous sommes. Je fais pas de progrès, encore la même chose. Vous connaissez ça? Alors, dans le texte de Zacharie 3, 1 à 7, qui est le juge?
Dieu.
Qui est l'accusé? Josué. Et ça peut être nous. Et qui est l'avocat général?
Satan.
Il nous attaque. Mais qui est notre défense?
Jésus-Christ.
Incroyable. Oui, c'est ça. Alors, ça c'est important de serrer dans nos têtes que nous avons la possibilité d'être pardonnés. Quel est le ministère de Jésus-Christ pour nous aider contre les attaques de Satan? Le ministère, c'est qu'il est allé à la croix. Il a pris le salaire de nos péchés, c'est déjà payé. Et il nous offre cette possibilité d'être pardonnés. 1 Jean 1, 9, ça marche. Et ça marche répété. Des fois, on a... J'ai déjà demandé pardon pour ça, je ne peux pas demander 2 fois, 3 fois, 100 fois. Si. Mais bien sûr, il faut être honnête avec ce qu'on demande. Alors, vous avez des questions peut-être? C'est un sujet un peu spécial, mais je ne voulais pas terminer le week-end sans aller jusqu'à là. Oui?
Mais quand Jésus est arrivé pour être pardonné, le diable peut nous faire douter de notre pardon, du pardon de Jésus.
Ouais, tout à fait.
Donc il faut vraiment être très dans la parole.
Le plus qu'on attend, le plus que c'est dur.
C'est dur, oui. Ouais.
D'autres questions, observations?
C'est vrai que.
Parce qu'on pense à lui-même. Est-ce que moi, je peux pardonner quelqu'un 100 fois pour la même chose? Il faut qu'il apprenne, quand même. Ça, c'est la manière humaine de penser. Mais Dieu, il peut nous pardonner parce que Jésus a payé pour toutes ces choses.
Oui, mais est-ce que le fait qu'on recommence, ça peut qu'on n'est pas sincère quand on est pardonné?
Ça peut être, ça peut être. Il faut regarder aussi le cœur. Mais si on a vraiment pleuré sur notre péché, notre faute, et on demande à Dieu vraiment de nous pardonner, je crois qu'il peut aussi nous pardonner une deuxième fois, même pour la même chose, et on peut recommencer. Parce que Satan...
Il vient un moment donné où on ne pêchera plus, parce qu'on en a marre.
Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé.
Exact, très bien. Bon verset là.
Et c'est vrai, il y a l'orgueil aussi. L'orgueil, c'est. J'ai pas besoin de pardon, je suis quelque chose comme ça. La vérité, on a besoin de pardon, quoi. Du Seigneur, quoi. Ça vit, on va être.
Mais c'est un peu comme ces deux femmes dont j'ai parlé. La femme qui a été blessée, elle regarde ça comme tu n'arrives pas tellement, pardon, parce que tu en as fait. Ça, c'est la manière humaine de voir les choses. Mais Dieu voit les choses. Moi, par exemple, avec les jeunes chrétiennes, j'ai 2 livres qui sont dans le même livre. Et sur l'un, sur la couverture de l'un, parce que j'enlève les 2 couvertures, sur la couverture de 1, je marque les péchés de Steve. Sur la couverture de l'autre, je marque la vie de Jésus.
Oui.
Et ce qui se passe quand on demande pardon vraiment, que ça vient du cœur, c'est comme Dieu change de couverture. Et quand tu regardes dans le livre, les péchés ne sont pas là. Tous ces péchés que ne sont pas là, il n'y a que la vie de Jésus. Parce que c'est ce que Dieu voit quand il nous regarde, quand nos péchés sont pardonnés. Il n'a aucune souvenir, parce qu'il pousse la tête, nos péchés. Ils sont pardonnés. C'est une manière vraiment de penser. Dieu voit autrement que nous.
Et puis, des fois, les conséquences.
Ah oui, alors, les conséquences durent longtemps.
Non, mais elle nous culpabilise.
Bah, exactement. Parce que les conséquences sont là, ça nous culpabilise. Et des fois, je connais des chrétiens qui ont demandé 100 fois pardon pour la même chose. Dieu a déjà pardonné. Mais parce que la culpabilité reste dans la tête, il pense à ça.
Ça nous rappelle notre péché, les conséquences.
Et si pour pécher, quand on est tenté, on ne peut pas empêcher un oiseau de rouler au-dessus de notre tête, péché, mais on peut empêcher de faire sonner.
C'est bien.
Dans le cas des deux femmes dont tu parles, je pense qu'il y a une énorme puissance qui est l'offense. C'est-à-dire que s'il y a offense, si quelqu'un se sent offensé, ça c'est souvent une barrière très très forte qui empêche de pardonner. Et je pense que c'est peut-être le cas là aussi.
C'est ça, c'est aussi l'orgueil. Mais tu as raison, il y a des choses dures. Là, ce n'était pas un truc, mon avis, pas super, super profond, mais c'est un peu, il y a un peu la hauteur sur une personne en disant, je te pardonne, mais... Pour bien voir ce que tu as fait, combien ça m'a fait du mal, et tu vois, elle a une couche de plus, et que ça enfonce le clou, comme tu dis, les culpabilités, on pense.
Les conséquences. Quand on les voit.
Parce que ça coupe la relation. Et elle a répété ça aussi, en disant je te pardonne, mais on ne peut plus avoir cette même relation.
Et est-ce que c'est un péché de. Demander pardon pour le même péché.
Est-ce que c'est un péché
de pardon? C'est un manque de confiance du pardon.
Oui, je pense pas que c'est un péché, mais c'est le manque de confiance, ça c'est sûr. Hein. Est-ce que ça c'est un péché? C'est un péché dans le sens qu'on ne croit pas ce que la Bible dit, dans ce sens. Mais ouais, je crois que c'est aussi un peu le côté
lorsqu'on prie, souvent, on ne s'attend pas à ce qu'on aura la réponse de Dieu. Dieu a été répondu. Il a été répondu, on a bien compris. Mais des fois, on se dit, mais ça met longtemps à venir, alors qu'on n'a pas pu déceler la réponse de Dieu à temps. Quoi. On n'a pas vu. Il ne faut pas la circonstance, alors que c'est déjà fait.
Des fois, il faut le croire simplement par la foi.
Exact. Mais c'est ça, tout le temps, il faut croire par la foi.
En fait, l'objectif de Satan, c'est de nous détacher de regarder Dieu.
Exact. Parce que le
plus et pour ce faire, ce qu'il. Effectivement, il utilise notre conscience. Mais comme tu l'as dit à propos de l'exemple que tu as donné, pour toucher notre conscience au plus profond, Satan, souvent, va utiliser jusqu'à des frères et sœurs, parce que eux, ce sont les plus près de nous, et que eux aussi connaissent Christ, et ils appliquent la loi. Ils font le travail de Satan. Et on ne s'en rend pas toujours compte. Mais souvent, c'est comme ça. Et il n'y a pas de pire attaque, de pire pointe que celle qu'un chrétien peut envoyer dans la conscience d'un autre chrétien.
Et par contre, le contraire est vrai aussi, parce que quand tu viens à quelqu'un qui t'a baissé en disant « Frère, je t'aime. » Ça fait du bien.
Ah oui, oh, bien sûr.
Ça change cette relation. Ça fortifie cette relation. Quand on prend la forme, la place de Dieu pour vraiment aider la personne à être reconstruite, c'est encourageant. Et c'est ça l'Église. Malheureusement, on ne fonctionne pas toujours de cette manière parce qu'on se sent blessé, n'est-ce pas? Ça fait 2 mois, il me fait la même chose. Même dans les couples, difficile.
Tu viens d'avoir notre prochain pour toi-même
Comment?
On aimera notre prochain pour nous. Ouais, et tout ce que vous voulez de place pour vous, c'est le même pour nous.
Et quand on vient vers quelqu'un, on lui demande pardon et qu'il ne nous donne pas. Le pardon de Dieu suffira à ce cas-là.
C'est ça. Et le fait d'avoir demandé pardon, même si la personne n'est pas encore prête à dire je te pardonne, le fait de le dire, peut-être ça va venir plus tard. Mais de toute façon, on se débarrasse de cette culpabilité de savoir qu'on a mal fait à l'égard de la personne. Moi, je sais, on a eu un problème de pasteur et j'ai dû pratiquer la discipline du Seigneur. Sa femme, elle m'en voulait. Parce que bien qu'elle était en colère avec son mari pour ce qu'il avait fait, elle ne voulait pas non plus que moi je parle de ça. Je ne parlais pas devant l'église de détails, mais j'ai dit simplement que nous étions en train de pratiquer la discipline. Parce que je voulais que l'église suit, je voulais que l'église soit au courant pour qu'ils ne pensent pas que, oh, on laisse faire, et sinon les bruits commencent à courir. Alors, tous les dimanches, j'ai annoncé que prier, continue à prier, on est en train de faire les démarches nécessaires. Mais elle était en colère avec moi, oh là là, jusqu'à m'envoyer des messages que j'ai supprimés tout de suite, parce que je ne voulais pas que ça reste. Et finalement, maintenant, elle est une de nos grandes amies. Et vraiment, le Seigneur a changé son cœur. Et elle a demandé pardon pour son attitude. Moi, j'avais demandé pardon, que je savais qu'elle était blessée, mais j'ai essayé de dire que j'étais obligé de protéger aussi l'Église. Mais pour elle, c'était dur. Imaginez. Je vais prier. Seigneur, ce sujet est difficile parce que nous savons que nous sommes coupables. Les paroles de l'ennemi nous accusant sont la vérité très souvent. Et Seigneur, nous avons besoin de ton aide. Mais Seigneur, notre prière, c'est que tu nous aides à nous tourner vers toi tout de suite. De ne pas laisser cette culpabilité monter et nous éloigner de toi. Encourage chacun ici ce matin avec le désir de rester en contact avec toi en sachant que Jésus-Christ a payé le prix, il nous aime et il veut nous pardonner. Alors merci pour cette église, nous prions que tu continues à bénir et faire grandir cette église, que ta bénédiction soit sur eux et nous prions au nom de Jésus. Amen.
Bien, je prends la suite de Robert. Merci Steve pour ce message, pour cette nourriture spirituelle qui nous fortifie et qui nous enrichit abondamment. Cela dit, si vous voulez bien, on va prendre un cantique, c'est Grâce infinie. Donc je vous invite à vous lever. Ouais, c'est tout à propos.
Thank you.
Merci, prenez place. Maintenant, je vois que les enfants vont nous proposer quelque chose. Et les jeunes. Donc, la nuance est très évidente.
Oui, on voudrait vous montrer le thème de nos discussions avec les jeunes.